journal des sciences.
Et pour commencer ce journal des sciences, la NASA annonce que la construction de sa station orbitaire autour de la Lune va commencer dès 2019. C'est la première étape de son programme qui doit amener les premiers hommes sur Mars en 2030.
Et oui, puisqu'entre mars et le début de ce mois, la NASA a dévoilé sa feuille de route en 5 étapes pour l'exploration humaine de la Lune, puis du système martien. Elle a rendu public le calendrier des missions d'assemblage, de logistique, ainsi que celui des missions habitées, puisque je rappelle que Donald Trump a très clairement indiqué en début de mandat son désir de reprendre le flambeau de la conquête de Mars par des humains et de se servir donc de la Lune comme de tremplin pour atteindre la planète rouge avec l'assemblage d'une passerelle vers l'espace profond, Deep Space Gateway, qui nécessitera 4 missions et la construction en orbite d'un système de transport vers l'espace profond. Alors William Gerstenmayer, l'administrateur associé de la direction de l'exploration et des opérations humaines de la NASA, a annoncé lundi que le premier investissement pour cette plateforme sera pour les éléments de propulsion et d'énergie et qu'elle interviendra dès l'année prochaine, dès 2019. Alors j'ai demandé son regard sur cette feuille de route de la NASA générale à Christophe Lasseur. Il est coordinateur des activités support vie de l'ESA et il dirige le projet MELISSA qui a pour objectif l'étude des supports de vie autonomes.
On se situe quand même dans un contexte qui aujourd'hui est relativement flou. On voit effectivement qu'il y a un recentrage autour des orbites lunaires aujourd'hui qui semble une étape à venir avant d'aller vers Mars. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord que la connaissance actuelle, la robustesse des technologies ne nous permet pas d'aller directement vers Mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà essayer de comprendre un peu mieux et valider des technos dans une orbite qui sera plus une orbite terrestre où on sera entre autres exposé fortement aux radiations. Ça, je pense que c'est quand même un des challenges. Aujourd'hui, la station spatiale internationale, comme la station chinoise, orbite sous les ceintures de Van Allen, c'est-à-dire qu'elles sont protégées des radiations. Et là, on s'en va vers un vol vers Mars où on va exposer notre véhicule et l'équipage à une forte dose de radiation. Avoir la possibilité d'avoir cette plateforme en orbite lunaire, pour simplifier, et pouvoir aller faire de la recherche pour valider ces technos ou mieux comprendre les fédérations, ça me paraît pertinent. Par contre, je dois vous dire que c'est un vrai travail de recherche à faire. Il n'apparaît pas, si vous regardez bien, dans les phases lunaires 1 et phases lunaires 2, ce n'est pas clairement dit que ce sera une plateforme de recherche. Bon, encore une fois, pour l'instant, on a des documents qui sont encore, je dirais, en élaboration et en discussion. Je vais me limiter à mon petit domaine, qui est le support vie. Et moi, je vous dis que dans le domaine de support vie, aujourd'hui, si on n'a pas une plateforme de recherche, on aura un manque et on aura une connaissance qui nous obligera à prendre des risques pour pouvoir aller directement en phase 3.
Alors, il reste encore un certain nombre d'inconnus pour cette feuille de route américaine. La première d'entre elles, le niveau de coopération et de participation des agences européennes, de l'Agence spatiale européenne, et puis également la collaboration avec la firme privée SpaceX.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors de ça, il y a Elon Musk, le charismatique patron de l'entreprise, qui se dit prêt, lui, à se préparer à envoyer directement une centaine d'hommes sur Mars dans les années 2030, sans passer par la case Lune. Parce que si on l'a entendu, certains, notamment à l'ESA, pousse pour cette étape lunaire. D'autres, comme Richard Heidmann, ingénieur en propulsion spatiale et vice-président fondateur de l'association Planète Mars, ne comprend pas ce choix, qu'il juge aussi absurde qu'inutile scientifiquement et économiquement.
C'est un peu curieux parce que on sent qu'il y a des pressions, si vous voulez, de certains milieux, et en particulier de l'ESA, de l'Europe, pour commencer par la Lune et reporter l'échéance martienne, parce que c'est plus risqué, plus difficile, plus coûteux. Mon point de vue, c'est qu'on n'en a pas vraiment besoin tel que c'est présenté. Si vraiment on s'intéresse à la Lune, il faut descendre sur la Lune. Par contre, l'idée de ce qu'ils appellent la gateway, la station orbitale lunaire, moi personnellement, je trouve que c'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis d'argent, c'est du gâchis de temps. Et ça ne sert à rien. Il n'y a que sur l'aspect psychologique que ça joue, je dirais, mais parce que l'idée, c'est quand même de développer les vaisseaux qui permettront d'aller vers Mars, c'est bien dit comme ça, et de les tester dans le domaine lunaire. Ces vaisseaux qui sont faits pour supporter un voyage lointain, que vous les testiez en orbite terrestre ou en orbite lunaire, ça ne change absolument rien. Si on veut tester, par exemple, la résistance aux radiations, effectivement, il ne faut pas se contenter d'une orbite basse ou monter une orbite terrestre au-dessus des ceintures de Van Allen, mais c'est quand même beaucoup moins coûteux que d'aller faire une station spéciale autour de la Lune. La seule utilité, elle est programmatique, c'est-à-dire de donner un but intermédiaire aux lanceurs, de faire fonctionner l'industrie. Mais enfin bon, il vaut mieux faire ça que rien du tout. Gros inconvénient, c'est qu'elle engage des frais sur des résultats intermédiaires, et on n'a aucune idée de combien ça coûte. Donc s'il dépasse complètement le cadre des budgets disponibles, il est tué tout de suite. C'est ce qui s'est passé avec le programme de la Space Exploration Initiative en 89.
En bref, ça necte sur Uranus.
Oui, Uranus sans mauvais, une étude le confirme. Cette étude, elle est parue dans Nature Astronomy et elle s'est appuyée sur les données du télescope Gemini North d'Hawaï qui nous a permis d'identifier la composition des nuages d'Uranus. Située à plus de 3000 km de nous, 3 millions, la planète de glace géante sent en fait le sulfure d'hydrogène. On le sait maintenant, un gaz qui sent très fort concrètement, disons-le, l'œuf pourri et qu'on retrouve aussi dans les émanations des volcans.
Entre autres, Sentinel 3B est le 7e des satellites européens qui a été lancé mercredi depuis la Russie et qui va aller rejoindre son jumeau Sentinel 3B en orbite à 815 km d'altitude.
Avec un but, observer les océans, avec une série d'instruments de pointe, Sentinel 3 est la plus complexe des missions Sentinel. Grâce à son radar altimètre, le satellite va mesurer la hauteur des océans, des lacs, des rivières, mais aussi l'épaisseur des banquises et des glaciers. Il fournira quotidiennement les températures à la surface des eaux, mais aussi des sols. Et grâce à un spectromètre imageur, il peut aussi connaître la couleur des océans, qui peut nous aider à mieux comprendre la chaîne alimentaire et le climat.
Deuxième sujet de ce journal, les sciences. Environ un tiers des adultes français est concerné par l'hypertension artérielle et la moitié de ces personnes l'ignorent encore. C'est une étude décennale de Santé publique France.
Oui, qui nous le dit, cette étude à la méthodologie complexe et assez imparable a été réalisée pour la première fois il y a 10 ans et elle livre donc 10 ans plus tard des résultats assez inquiétants. L'hypertension, qui est favorisée par le surpoids, la sédentarité, le tabac, le diabète, est responsable de 13% des décès dans le monde, rappelle cette étude. Elle doit être traitée. Si la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 ou la pression artérielle diastolique à 90, il y a hypertension. Or, les résultats de cette étude montrent des chiffres assez inquiétants en matière de prévention et de prise en charge, explique Valérie Ollier. Elle est épidémiologiste à Santé publique France.
Ces résultats sont effectivement assez surprenants. On s'attendait à ce que la connaissance de la pathologie par les patients hypertendus se soit améliorée. Dans d'autres pays européens, on atteint des niveaux de connaissance de la pathologie de 80%, notamment en Allemagne, ou en Angleterre ou au Portugal. La connaissance de la pathologie est restée malheureusement assez stable et à un niveau plutôt bas. Donc en France, on est seulement à 50%, seulement 1 sur 2 qui a connaissance de sa maladie. Donc il y a un vrai souci d'acceptation du diagnostic par les patients ou d'annonce du diagnostic aux patients. Alors les femmes sont toujours moins touchées que les hommes. La fréquence de l'hypertension est plus importante chez les hommes que chez les femmes. Et ça n'a pas évolué au cours du temps. Néanmoins, ce qu'on observe dans cette étude, c'est que les femmes se traitent moins pour leur hypertension qu'il y a 10 ans. La chute est assez impressionnante. Elles étaient 86% traitées il y a 10 ans. Elles ne sont plus que 70%. Donc on a eu une diminution à ce niveau-là qui est un signal plutôt assez défavorable chez les femmes.
En bref, une nouvelle forme d'ADN a été observée pour la première fois dans des cellules humaines vivantes.
Oui, cette nouvelle conformation d'ADN dite en boucle, son nom de baptême c'est Imotif, au lieu de la fameuse double hélice, a été observée dans des cellules vivantes pour la première fois par une équipe australienne qui publie leurs travaux dans Nature Chemistry cette semaine. Cette structure de l'ADN semble être transitoire mais déterminante dans la régulation des gènes pendant le cycle cellulaire. Ces nœuds d'ADN, on les avait déjà observés en laboratoire dans des conditions de pH acide qui ne correspondaient pas aux conditions physiologiques et la possibilité de les observer in vivo divisait les scientifiques. Et bien cette équipe australienne a pu mettre en évidence la présence de ces motifs dans des cellules humaines en concevant un anticorps destiné expressément à les repérer.
La parité homme-femme, ça n'est pas pour tout de suite, Zoé.
La parité homme-femme dans les sciences, parce que les chercheurs de l'Université de Melbourne ont utilisé des bases de données de PubMed et d'articles d'Arxiv pour répertorier plus de 10 millions d'études publiées dans 6000 revues scientifiques entre 2002 et 2016. Ils ont comptabilisé les auteurs femmes. Ils ont bâti des modèles mathématiques en se basant sur les rythmes actuels d'augmentation des présences féminines parmi les chercheurs en sciences. Et ils déduisent que la parité dans l'astrophysique interviendra dans 131 ans. Seulement dans 60 ans pour ce qui concerne les mathématiques, mais la palme de la lenteur revient sans doute aux sciences informatiques où la parité, si on continue comme ça, ne sera atteinte que dans 280 ans.
Et pour terminer, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, un point commun assez atypique et inattendu entre l'être humain et la mouche. En cas d'absence d'orgasme, eh bien, les deux espèces se retournent vers l'alcool.
Tout à fait. Vous savez, cette mouche drosophile, elle nous ressemble. Eh bien, là, on le sait. Rappelez-vous, des chercheurs israéliens, il y a quelques années, nous avaient déjà expliqué que même ces petits êtres, eux aussi, éprouvaient du plaisir au moment de l'éjaculation. Eh bien, là, ils sont allés plus loin. Cette fois-ci, dans une étude parue cette semaine dans Current Biology, eh bien, ils essaie de comprendre qu'est-ce qui intervient, qu'est-ce qui est le système de récompense au moment où la mouche a du plaisir quand elle éjacule. Pour ce faire, ces chercheurs ont utilisé la technique d'optogénétique pour stimuler spécifiquement à la demande les neurones connus pour être responsables de la libération du sperme et du liquide séminal chez la mouche. Ce sont les neurones à chorazonine. Ils ont modifié génétiquement des drosophiles mâles pour que ces neurones soient excités non pas par l'éjaculation, mais par une lumière rouge. Placés dans une petite boîte, ces drosophiles mâles génétiquement modifiés se tournent évidemment toujours volontiers vers cette lumière qui allume ces neurones pour ressentir du plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe chez ces mouches, au moment où elles sont exposées à la lumière, des changements moléculaires similaires à ceux qu'on observe dans un vrai accouplement, c'est-à-dire qu'on voit le taux de neuropeptide F, la molécule impliquée dans les phénomènes de récompense, qui augmente très vite. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces drosophiles modifiés dans cette boîte avec cette lumière, eh bien, ils sont satisfaits sexuellement par cette lumière rouge qui mime l'éjaculation. Et quand on les place devant une nourriture imbibée d'alcool, eh bien, ils s'en détournent, alors que leur congénère non modifiés, donc moins satisfaits sexuellement, eh bien eux vont se jeter dessus. Conclusion des chercheurs, quand on est satisfait, on n'a plus besoin de boire. Ça s'applique sans doute à nous tous, mais en même temps, ce sont des conclusions peut-être un peu hâtives, je ne sais pas.